Bonjour à chacun. C'est vrai que nous allons un petit peu y revenir à ce que nous a dit Anaël déjà. Mais avant, j'aimerais aussi vous raconter une petite histoire. Enfin, plutôt qu'on imagine quelque chose. Imaginez qu'il y a un homme qui rentre ici et qu'il dit qu'il est un virtuose du piano. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit ? Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de lui dire, écoute, j'ai vraiment envie de t'écouter, quoi. Prends le piano, joue-nous quelque chose. On a vraiment envie de savoir ce que toi tu sais faire. On a envie d'écouter. En imaginant cette scène, et je vous demande d'essayer de ne pas l'oublier tout au long de la prédication, nous allons lire ensemble Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Donc Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Ça s'affiche aussi à l'écran. Je vais donc lire ce texte. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres ». « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ?» Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'est-elle pas de la même manière ? N'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est un texte qui m'a personnellement beaucoup interpellé et qui, on pourrait dire, dans un premier temps, ça semble contredire d'autres textes. Anaël en a lu, mais pour qu'on puisse encore être pleinement convaincu que cela semble un petit peu contredire, comme ça, au premier abord, d'autres textes. Lisons ensemble Romains 3, versets 23-28. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier ? Elle a été exclue. Par quelle loi ? Par celle des œuvres ? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Je relis bien le dernier verset. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre des textes en parallèle et je vais rajouter Éphésiens 2, 8 à 9. Donc, vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Jacques 2, verset 24. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Romains 3, 28. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Il semble y avoir une contradiction ici. Maintenant qu'on a mis ces textes en parallèle, je vous propose qu'on vote à certaines propositions que je vais vous faire. On va voter à main levée. Ceux qui étaient à l'Assemblée Générale, maintenant vous êtes habitués. Je vais juste rajouter quelques règles. Donc, vous ne parlez pas avec votre voisin. Et si votre voisin vote pour quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, ne lui dites rien. C'est vraiment un vote démocratique, individuel. C'est parti, vous êtes prêts? Vous allez jouer le jeu? Donc, vrai ou faux? Œuvre égale salut. Foi plus œuvre égale salut. Foi égale salut. Foi plus œuvre en tant que manifestation du salut, donc égale salut. Foi plus œuvre en tant que mérite du salut égale salut. Ok, c'est parti. Qui vote? Qui dit que c'est vrai pour le premier? Œuvre égale salut. Ok, bon, bah, j'espère que vous allez voter aux prochaines propositions, hein, parce que sinon, ça ne marche pas. Foi plus œuvre égale salut. Ok, d'accord. Foi égale salut. Ok. Foi plus œuvre en tant que manifestation du salut. Ok. Foi plus œuvre en tant que mérite du salut égale salut. Ok, je vous propose qu'on rentre chez nous, qu'on essaye de résoudre tout ça tout seul. C'est trop compliqué. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Comment on fait? Il semble vraiment y avoir une contradiction. Et pour l'instant, mon but, c'est juste de dire ben, merci pour vos réponses. Et de dire, ben, écoutez, franchement, je crois qu'il y a une contradiction entre Paul et Jacques. Paul qui a écrit Romains et Éphésiens, et Jacques qui a écrit donc Jacques. Nous sommes face à un vrai problème en tant que chrétiens. Si nous croyons que la Bible est vraie, qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, qui est Dieu et qui ne peut pas se contredire. Depuis que je suis chrétien, j'ai déjà été confronté plusieurs fois à ce type de problème. Et parfois, je n'ai pas tout de suite trouvé la réponse. Mais j'ai confiance dans la parole de Dieu. Nous avons confiance en tant qu'Église dans la parole de Dieu. Nous savons que la Bible est la sainte parole de Dieu. Nous savons qu'elle est pleinement inspirée par le Saint-Esprit. Pour résoudre ce problème, nous devons savoir quels étaient les objectifs de Paul et quels étaient les objectifs de Jacques quand ils ont écrit ces livres. C'est ce que nous allons voir ensemble. En fait, il n'y a pas de contradiction. Nous allons le voir ensemble. Nous pouvons voir qu'il y a deux objectifs évidents pour la lettre de Jacques. Premier objectif, c'est de consoler les chrétiens. Les chrétiens vivent des persécutions. Il semble y avoir des maladies au milieu d'eux. Et donc, Jacques veut les consoler. Il semble y avoir de l'injustice. Il parle de riches et de pauvres. Et les chrétiens sont ceux qui travaillent dur dans les champs pour ces seigneurs, ces riches. Et il les console. Ces chrétiens semble vraiment vivre des temps difficiles. Et Jacques prend du temps pour les consoler. Premier objectif, consoler les chrétiens. Deuxième objectif est de corriger certains défauts dans la foi et la pratique de ses frères et sœurs. Ils semblent être des juifs convertis au christianisme, mais ils n'ont pas compris toutes les implications de l'évangile. Le message que nous proclamons et que nous devons vivre. Ces chrétiens ne semblent pas être en train de vivre la souffrance de la bonne manière. Alors Jacques leur dit au chapitre 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et il continue à leur expliquer comment en tant que chrétiens, nous devons vivre la souffrance. Il y a aussi du favoritisme entre les riches et les pauvres. Ils n'accueillent pas ce type de gens de la même manière dans l'Église. Comme aujourd'hui, et personnellement, je peux en témoigner, et oui, ça arrive, Ils avaient du mal à maîtriser un petit organe, mais qui peut faire beaucoup de dégâts, la langue. Et on voit aussi dans cette lettre tout un chapitre sur comment vivre dans ce monde sans être un ami du monde. C'est-à-dire d'être d'accord avec le système ambiant, cette manière aussi de vivre qui règne au milieu, autour de nous. Il y avait donc deux objectifs clairs pour Jacques. Le premier, consoler les chrétiens, et le deuxième, corriger certains défauts dans la foi et la pratique de ses frères et sœurs. Le chapitre 2 de Jacques a été écrit pour corriger ces chrétiens. Il semble qu'ils n'ont pas compris la doctrine centrale du christianisme, la justification par la foi seule. Le titre de ma prédication est « Montre-moi ta foi ». Nous allons voir ensemble que nous pouvons être justifiés uniquement par la foi, mais que la vraie foi est accompagnée par des œuvres, donc la foi est démontrable. Commençons par justifier uniquement par la foi. Anaël en a déjà parlé, mais là peut-être que vous vous dites, mais attends Ricardo, est-ce que tu as oublié les textes qu'on a lus ? Ça ne semble pas être si évident que ça. La preuve, c'est qu'on n'a pas tous voté pour la même chose. Non, je n'ai pas du tout oublié les textes et nous allons y revenir. Tout au long de la Bible, on apprend que nous sommes justifiés par la foi seule. Nous sommes justifiés au moyen de la grâce seule, par la foi seule. Donc, si un texte semble nous dire le contraire, c'est qu'on l'a sûrement mal compris. Selon la Bible, nous sommes coupables devant Dieu. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Et si aujourd'hui nous pouvons être justifiés, c'est-à-dire être déclarés justes, c'est-à-dire des personnes qui ont toujours obéi à la loi de Dieu, c'est grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Nous ne sommes pas justifiés grâce à nos œuvres, mais grâce à la vie parfaite de Jésus et son œuvre à la croix. À la croix, Jésus a été condamné à ma place pour que moi, je puisse être justifié. J'ai donc reçu sa justice et lui ma condamnation à la croix. Paul, quand il écrit Romains, en tout cas les versets que nous avons lus ensemble, il s'attaque à un problème qui est le légalisme. Et Jacques, dans le chapitre 2, s'attaque à un autre problème qui est l'antinomisme. Alors, désolé pour ceux qui n'aiment pas du tout les mots théologiques, mais nous allons voir que ce n'est pas du tout compliqué. Et franchement, il y a une prière qui a été faite. Nous n'avons pas besoin d'être de grands théologiens pour comprendre le message de la Bible. Dieu se révèle à tous et le message de la Bible est pleinement compréhensible par tous. Mais c'est intéressant et on va juste voir ce que des théologiens mettent derrière ces mots. Le légalisme consiste à chercher à être pardonné et accepté par Dieu en obéissant à sa loi. L'antinomisme consiste à rejeter la loi parce que nous sommes pardonnés et acceptés par Dieu par notre foi. L'antinomisme, on pourrait dire que c'est une exagération de la doctrine centrale du christianisme, de la justification par la foi seule. En gros, pour les antinomistes, la foi et la grâce excluent la loi. En gros, ils abusent de la grâce. En fait, ce n'est pas important la manière comment on vit et tout ce qu'on fait, en fait, dans notre vie. Le plus important, c'est d'avoir la foi. Voilà ce qu'ils disent, et donc ils abusent de la grâce. On s'en fout de ce que je fais. En gros, j'ai la foi. Donc, ça va. Voilà ce qu'ils disent. Est-ce qu'on est chrétien parce qu'un jour, on a fait une prière? La prière qu'on peut appeler la prière du pécheur. Et une prière qui peut ressembler plus ou moins à ça. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon des péchés et pour la vie éternelle. Fais de moi la personne que tu veux que je sois alors que je deviens un de tes disciples. Amen. Est-ce qu'on devient chrétien en disant cette belle déclaration de foi, en faisant cette belle prière? Mon but dans un premier temps est de vous montrer que Jacques et Paul sont d'accord sur le fait que nous sommes sauvés par la foi seule. La foi que Jacques condamne ici n'est pas la foi que Paul recommande. Les œuvres que Jacques recommande dans Jacques 2 n'est pas du tout les œuvres que Paul condamne. Paul s'attaque au légalisme, Jacques s'attaque à l'antinomisme. En tant que chrétien, nous pouvons pencher d'un côté le légalisme ou de l'autre l'antinomisme. L'équilibre doit donc être recherché. Nous devons avoir une foi juste, mais nous devons démontrer la réalité de cette foi. Aucune œuvre ne doit être rajoutée à l'œuvre de Jésus-Christ. Son œuvre sur la croix est pleinement satisfaisante pour nous justifier. Et ça, c'est le message de Paul. Rien, ne rajoutez rien, ça suffit ce qu'il a fait. Il a pleinement payé pour tous nos péchés. Et Jacques dit que juste dire « j'ai la foi », que juste faire une belle prière, que juste, on verra par la suite, ça ne suffit pas. Si on fait une belle déclaration de foi, mais qu'on continue à vivre comme si rien ne s'est passé, en fait, ça veut dire qu'il ne s'est réellement rien passé. Ce n'était pas la vraie foi. Relisons ensemble le verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» L'objectif de la foi est bien sûr de nous sauver. Nous croyons pour être sauvés. Mais pour que la foi, elle atteigne cet objectif, il faut que ça soit de la vraie foi. Et l'unique manière de savoir si c'est de la vraie foi est de voir si elle produit des œuvres. Je rappelle le titre de la prédication, « Montre-moi ta foi ». Il y a foi et foi. Il y a juste la foi qui est une adhésion intellectuelle. Il y a la foi qui est, en fait, juste un sentiment. Ça me permet de me sentir bien. C'est juste un sentiment en fait. Il y a la foi qui est un héritage. En gros, mes parents sont chrétiens. Je suis toujours venu à l'église. J'ai entendu énormément de choses sur la Bible. Les moniteurs du club des enfants ont passé des heures et des heures à préparer plein de choses pour que je puisse rencontrer Dieu. Peut-être que tu connais des versets par cœur de la Bible. Mais ce matin, avec le texte de Jacques 2, je dois dire qu'il ne suffit pas d'être né dans une boulangerie pour être une baguette. C'est vrai. On peut naître dans une boulangerie. Ça ne veut pas dire qu'on est une baguette. Paul ne sait jamais attaquer aux œuvres qui montrent notre foi. Paul ne s'est jamais attaqué à ce type d'œuvre. Paul et Jacques ne sont pas du tout en train de parler du même type d'œuvre. Les œuvres que recommande Jacques montrent la qualité de notre foi, montrent que nous sommes vraiment justifiés, sauvés. Et les œuvres que Paul attaque sont celles dont certains croyaient qu'elles pouvaient les sauver. Ce n'est pas du tout la même chose. Je sais qu'il y a encore un verset qui continue peut-être à vous poser problème. C'est le verset 24. Et nous allons en parler. pour vous montrer que Jacques et Paul ne se contredisent pas, nous allons lire un texte dans Jacques pour en être pleinement convaincus. Jacques chapitre 1, versets 16 à 18. Lisons-le ensemble. Donc, c'est juste un peu avant ce que nous avons lu dans Jacques 2. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Au verset 18, nous voyons que Dieu nous a régénérés, donné la vie, une vie nouvelle, une vie différente. C'est ça qu'il dit à ces chrétiens. C'est une vie différente de celle qu'ils avaient avant. Comment est-ce que Dieu, il l'a fait ? Par la parole de vérité. Qu'est-ce que la parole de vérité ? C'est la Bible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont entendu la Bible ? Ils y ont cru. Donc, Jacques est d'accord avec Paul sur le fait qu'il faut la foi pour être sauvé. Il faut la foi pour avoir une nouvelle vie. Où, justement, nous ferons des œuvres. Peut-être qu'avec notre contexte où l'Église catholique a eu beaucoup d'influence, nous avons du mal à parler d'œuvres dans nos églises évangéliques. Pour les catholiques, les œuvres ont un rôle important dans le salut. Nous, protestants évangéliques, héritiers de la Réforme, nous avons raison d'insister, comme l'ont fait les réformateurs au XVIe siècle, que nous sommes sauvés par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Mais n'oublions pas, la vraie foi sera forcément accompagnée par des œuvres. Nous avons vu donc que nous sommes justifiés par la foi. Paul et Jacques, j'espère que vous en êtes convaincus, ne se contredisent pas du tout. Et maintenant, nous allons voir ensemble que la vraie foi s'accompagne d'œuvres d'obéissance. Nous pouvons dire que les œuvres sont le fruit de notre justification. Jacques, en écrivant le chapitre 2, a en tête des personnes qui ont fait une déclaration de foi, mais dont la vie ne démontre pas qu'ils sont vraiment chrétiens. C'est malheureux, mais il y a des personnes qui peuvent comprendre l'évangile intellectuellement, qui ont une bonne doctrine. Théologiquement, c'est juste, mais ce n'est pas la foi qui sauve. C'est juste une adhésion intellectuelle. Jacques dit qu'une foi comme celle-ci, juste une adhésion intellectuelle, ne sert à rien. Une foi sans les œuvres, pour Jacques, c'est comme aller vers un frère ou une sœur qui n'a pas à manger, qui n'a pas de vêtements, et leur dire « Partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous. » Et il ne leur donne rien. C'est un peu des mots en l'air, vous êtes d'accord ? Donc, si une personne dit que Jésus est son Seigneur et Sauveur, mais qu'on ne le voit pas forcément dans sa vie, nous pouvons dire que c'était que sa déclaration de foi, c'était juste des mots en l'air. Encore une fois, j'aimerais souligner que ce n'est pas du tout ce type de foi que Paul encourage. Paul n'encourage pas les gens à faire de fausses déclarations de foi et il ne dit pas du tout que ce type de déclaration de foi sauve. Paul encourage une vraie foi qui sauve, qui sera forcément accompagnée par des œuvres. Paul et Jacques ne parlent pas du tout de la même foi et tous les deux, je le dis à nouveau, sont d'accord que nous sommes justifiés uniquement par la vraie foi. Jacques, dans cette petite histoire qu'il nous raconte, il n'est pas en train de mépriser les prières et les paroles d'affection qu'on peut dire à ceux qui souffrent. Franchement, dans énormément de situations, c'est la seule chose qu'on peut faire. Nous n'avons pas les moyens de résoudre tous les problèmes du monde. Parfois, nous pouvons uniquement prier et pleurer avec ceux qui pleurent. Mais Jacques ici est en train de nous parler d'une situation où nous pouvons agir et où nous ne faisons rien. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Morte pourquoi ? Morte parce qu'elle ne produit pas les fruits attendus. Donc, ce n'est pas de la vraie foi. Ensuite, du verset 18 au verset 26, Jacques fait quelque chose d'intéressant. En gros, il fait une espèce de dialogue, un débat, avec un opposant imaginaire et un opposant qui croit qu'on peut être sauvé uniquement par la foi sans qu'elle produise des œuvres. Versets 18 à 19, nous pouvons lire « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » Le défi de Jacques est le suivant « Montre-moi ta foi sans les œuvres. » On peut déclarer que nous avons la foi. On peut signer la déclaration de foi de notre Église et toutes les déclarations de foi historiques. Mais nous pouvons le faire tout en n'étant pas justifiés, sauvés. L'unique manière de montrer à nous-mêmes et aux autres que nous avons la vraie foi, que c'est une foi vivante, c'est au travers des œuvres qu'elle produit. Croire que Dieu est unique, c'était la déclaration la plus importante pour les Juifs. Je rappelle que Jacques est en train de parler à des chrétiens, à des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Dans le judaïsme, la déclaration de foi que Dieu est unique est appelée le schéma, qu'on retrouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » C'était la déclaration monothéiste des Juifs contre le polythéisme qui était autour. Bien sûr, le christianisme a aussi cette déclaration de foi. Mais nous pouvons croire ça. Nous pouvons avoir une déclaration de foi théologiquement juste, sans être justifié. Parce que Satan, les démons et Satan aussi croient. Ils croient aussi que Dieu est juste. Ils ont sûrement une bonne déclaration de foi. Ils connaissent peut-être probablement la Bible meilleure que nous. Ça fait des années qu'ils en entendent parler. Nous pouvons avoir une croyance juste, mais ne pas être justifiés. Et ce que font les démons et Satan, en plus, c'est qu'ils tremblent. Ils tremblent. Pourquoi ? Satan sait qu'un jour, ce Dieu va le juger. En fait, il est déjà jugé. Et il attend juste la sentence. Jésus l'a vaincu à la croix. C'est un ennemi vaincu. Nous pouvons le voir en Jean chapitre 16, verset 11. Ceux qui ont une foi intellectuelle, sentimentale, héritée, ne réalisent pas vraiment le risque qu'ils courent. Satan et ses démons savent ce qui les attend. Ils savent qu'ils vont être condamnés et c'est pour ça qu'ils tremblent. Jacques continue avec deux arguments encore. Il prend deux exemples dans l'Ancien Testament, Abraham et Rahab. Relisons Jacques 2, versets 20 à 24. « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Nous arrivons à cette partie difficile et surtout au verset 24. Abraham est le père des Juifs. Abraham est le père de la foi. C'est un exemple de foi. Nous n'avons pas le temps de lire tous les textes, mais dans la Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 12, Dieu a appelé Abraham et lui a fait une promesse magnifique. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Promesse magnifique. C'était la promesse que dans sa descendance allait naître le Messie, Jésus, et qu'il serait donc une bénédiction pour énormément de familles. À cette époque, Abraham avait 75 ans, selon le texte. Le temps passe, et dans Genèse au chapitre 15, Dieu s'adresse à nouveau à Abraham, et la promesse de Dieu est renouvelée. Abraham avait cru, mais le temps passe, il n'a toujours pas de fils, il ne voit pas comment cette prophétie, comment cette promesse va se réaliser. Il doute, et Dieu lui dit, « Compte les étoiles dans le ciel, si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. » La promesse est renouvelée, et à ce moment même, la Bible dit, Genèse 15, verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui compta comme justice. C'est à ce moment même qu'il est justifié. Ensuite, le fils aîné, c'est Isaac. Et en Genèse chapitre 22, Dieu met à l'épreuve la foi d'Abraham. Il lui dit de sacrifier son fils. Et Abraham prend le couteau. Quand Abraham est en train de prendre le couteau, l'ange de l'Éternel arrête Abraham et lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Quand est-ce qu'Abraham a été justifié? Est-ce que c'est en Genèse 15, quand la promesse lui est renouvelée et qu'il croit et que donc il est justifié? Ou est-ce que c'est quand il offre son fils Isaac? C'est bien en Genèse 15 qu'il est justifié, quand la promesse lui est renouvelée. Que veut dire donc ici Jacques, quand il dit qu'Abraham fut justifié quand il a offert son fils Isaac? Il veut dire qu'Abraham a démontré que sa foi était authentique parce qu'il était prêt à obéir à Dieu, quel que soit le prix. Sa justification a été démontrée par son œuvre d'obéissance. Vous imaginez, ce fils a été attendu. Dieu leur demande de le sacrifier. Et Abraham obéit. C'est l'ange de l'Éternel qui l'a arrêté. De la même manière, Rahab a démontré sa foi par ses œuvres. Rahab était une prostituée dans le pays promis aux Israélites. Josué, successeur de Moïse, c'est lui qui va rentrer dans le peuple, dans le pays avec le peuple. Il demande à des espions d'aller explorer le pays et ils vont chez Rahab. Le roi de Jéricho apprend qu'il y a des espions dans la maison de Rahab. Et qu'est-ce que fait Rahab? Au prix de sa vie, elle les cache. Rahab, comme Abraham, a démontré sa foi qu'elle exprimait comme ça. « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux. et comment vous avez traité les deux rois amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Rahab n'a pas seulement fait une belle déclaration de foi, mais elle a agi en conséquence. Ses œuvres l'ont donc justifiée, et encore une fois ici justifiée, veut dire qu'elle a démontré sa foi par ses œuvres. Nous avons vu ensemble que nous sommes justifiés uniquement par la foi, mais que la foi est forcément accompagnée d'œuvres d'obéissance. Et maintenant, nous allons insister sur le fait que donc la foi est démontrable, la foi est visible. Jacques dit au verset 26, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Les funérailles ne sont jamais un moment joyeux. C'est toujours un temps difficile de séparation. Mais dans notre culture, la personne décédée est toujours bien habillée. On lui met des beaux vêtements. Et Jacques ici utilise un petit peu une image. Il dit que notre déclaration de foi peut être belle. Elle peut être bien formulée. Mais si nos œuvres ne démontrent pas que nous avons réellement de la foi, en fait, c'est un peu comme une personne décédée bien habillée dans un cercueil, mais qui n'a pas l'esprit. Elle est morte. La foi sans les œuvres est donc morte. Revenons à la science de vote. Deux réponses me semblent justes dans les différentes propositions que je vous ai faites. Foi égale salut. Car nous sommes sauvés, justifiés par Dieu uniquement par la foi. Foi plus œuvre en tant que manifestation du salut égale salut me semble également être juste et je vais vous expliquer pourquoi. Si quelqu'un déclare que Jésus est son Seigneur et son Sauveur et qu'il me le montre par sa vie, même si seulement Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 19, je peux dire que cette personne me semble être sauvée. Voilà ce que je veux dire avec foi plus œuvre en tant que manifestation du salut égale salut. J'aimerais conclure en donnant des applications. Nous sommes une église qui aime écouter la parole de Dieu. Nous sommes une église qui aime l'enseignement. Nous voulons de la saine doctrine et rien d'autre. Nous voulons de la doctrine juste et rien d'autre. Nous avons raison d'être exigeants envers tous ceux qui nous enseignent et envers nous-mêmes, en voulant connaître plus la Bible. Mais est-ce que nous réalisons que nous ne devons pas juste connaître l'Évangile, mais que nous devons le vivre au quotidien? Que nous ayons l'envie non seulement d'écouter, d'apprendre, mais aussi de mettre en pratique. Oui, nous sommes justifiés par la grâce seule, au moyen de la foi seule. Mais la foi est forcément accompagnée par des œuvres qui vont bien souvent nous coûter cher. Une autre application est finalement pour ceux qui, avec ce texte, ont été convaincus que leur foi n'est pas la foi qui sauve. En fait, ce sont des croyants non sauvés, car leur foi n'est pas du tout visible par leurs œuvres. J'aimerais insister sur un point. Nous ne serons jamais parfaits. Impossible d'être parfait sur la terre. Mais une vie avec Dieu est une vie nouvelle, une vie différente, où des œuvres montrent à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent que nous sommes réellement chrétiens. Revenons à cet homme que nous avons imaginé, qui est rentré ici, qui nous a dit qu'il était un virtuose du piano. Nous lui avons demandé de jouer, mais en fait, il ne savait pas ce que c'était un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il n'arrivait pas à faire un do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il avait un grave problème, en fait. Il n'était pas du tout un virtuose du piano. Aujourd'hui encore, Dieu sauve. Aujourd'hui encore, Dieu sauve. Demande-lui sincèrement de te pardonner. Demande-lui sincèrement de changer ta vie à tout jamais. Et il le fera. Dieu ne refuse jamais ça à personne. Tous ceux qui font une vraie déclaration de foi, eh ben, leur foi sera accompagnée par des œuvres. Je vous propose maintenant un temps de silence où tous ensemble, et chacun individuellement, nous allons réfléchir. C'est un temps aussi où vous pouvez prier. Priez pour vous-même, mais priez aussi pour notre assemblée, notre Église.